Rolling Stones racontés comme votre vie même. Une émission de François Bon. 2. Bill Wyman.
Permet de traverser toutes les mauvaises passes. Itinéraire de William Pertz, futur Bill Wyman, dans l'Angleterre d'après-guerre. Do you play? Well, a bit of rock and roll and sort of rhythm and blues. Tu joues quoi alors?
Oui, plutôt du rock and roll et quelques trucs de rythme and blues. Hein.
I said Fats Domino, and they didn't like that. And Jerry Lee Lewis, and they went, ah! And Chuck Berry, and they said, oh good, yeah! Je leur dis Fats Domino, mais ils n'aiment pas. Et Jerry Lee Lewis, et ils font, ah! Ou Chuck Berry, ah ouais, super.
Ce qu'il y a d'étrange avec Bill Wyman, le bassiste, c'est qu'il leur semble, lors de leur première rencontre, appartenir à un autre monde. Et que 25 ans de travail commun, dont les 4 premières années en permanence, ne diminueront jamais l'écart. Aujourd'hui, Bill Wyman n'appartient plus aux Rolling Stones. Le grand-père de William Perks, futur Bill Wyman par exemple, ouvrier à Penge, banlieue de Londres, et boxeur amateur. On a chez les Perks ce corps maigre et nerveux, cette volonté de tenir qui permet de résister aussi à l'usine. Jeune marié, père de William Perks qui sera le père du bassiste, il est mobilisé pendant la Première Guerre mondiale à Salonique. Blessé, il revient borgne. La mutilation, la difficulté à reprendre la vie dite civile après les 4 ans de gouffre, font qu'il s'isole dans une passion, les pigeons voyageurs. L'élevage, les concours, dévoreront la petite pension militaire. De son père, Bill Wyman dit qu'il était « as hard as nails », dur comme un clou. À Noël, on dépose aux enfants une bouteille de bière et une pomme dans la chaussette suspendue. Et pour les punitions, le borgne défait sa ceinture. À 14 ans, William Perks' père est apprenti poseur de briques, ces briques rouges que Londres multiplie loin autour de la ville, dans les étroites maisons à l'identique. Et pour reproduire ce goût du jardin secret de l'ancien canonnier, autrement que par les pigeons, il consacre d'un coup tout l'argent économisé de ses premières payes à l'achat d'un accordéon. Incroyable luxe. Dans un contexte tout entier mangé par la nécessité. À 21 ans, devenu ouvrier maçon, il épouse Molly Jeffery, 18 ans, quatrième de 6 enfants. William porte donc le prénom de son père. Il a 4 ans quand c'est la guerre. Les restrictions alimentaires, les poux, les attentes dans les caves sous les bombardements, la maison des Perks sera soufflée. Les Perks auront 6 enfants. La dernière, une petite fille, meurt en 1947, à 4 mois. La paye du maçon est mince. Parfois, cesse complètement l'hiver. Il y a une brosse à dents pour toute la famille. Et pour dentifrice, on use de gros sel. Le dimanche, on lave tout le monde dans une bassine de cuivre. En tant qu'aîné, le futur bassiste est le 5e à faire trempette. L'eau n'est plus bien claire et la serviette plus bien sèche.
If you learn to play an instrument, you'll never be short of a pound. Si tu sais jouer d'un instrument, tu ne seras jamais à court de sous.
Dans cette famille ouvrière, quelles que soient les privations, le fils aîné aura donc droit à des leçons de musique. Il apprend le piano, le solfège, mais ses petites mains ne lui permettent pas d'aller loin. On le met à la clarinette. À 13 ans, Bill chante, moyennant rétribution, lors de mariages à l'église. Sa première activité de musicien rétribué. À la maison, il s'essaye d'oreille au standard du jazz. Les frères et sœurs aiment, mais le père chaque fois fait une scène. Les leçons de piano, ce n'est pas pour apprendre de la sous-musique. William, dit Willie à cause de sa petite taille, est un enfant concentré, voire renfermé. Mais à l'école, il est dans les meilleurs. Il est l'un des 3 sélectionnés sur les 52 de sa classe pour aller avec une bourse au lycée. Début d'une période difficile pour l'adolescent. Rebuté à l'école parce qu'on a l'accent ouvrier de Penge, et rebuté à Penge parce qu'on porte l'uniforme du lycée de la réussite. Même en ce début des années 50, les hivers restent durs. Avec 6 enfants, le maçon doit tenter autre chose. Il ouvre un guichet de paris. Parier a toujours été une manie anglaise. Ça commence bien, mais son associé file avec le premier argent. Pour rembourser, il transforme la maison en élevage de canaris, tortues, poissons rouges. On embauche la famille pour les vendre sur les marchés, jusqu'à ce que leur propre chat dévore en une seule nuit tout le fonds de commerce. D'organisateur de paris, le père passe de l'autre côté de la barrière en achetant un lévrier de course. Ça pourrait rapporter, mais ces bêtes fragiles ont l'appétit des grands sportifs. Celui-ci s'approprie chaque fois qu'il peut le dîner des enfants. Il se taise, mais le père revend son lévrier. C'est dans l'écroulement de ce troisième rêve du père qu'advient pour Bill l'incident principal. Il a cette bourse qui lui permet l'accès au lycée. Dans 3 mois, il va décrocher, du jamais vu dans cette famille d'ouvriers, l'équivalent du bac, quand sans demander avis au principal concerné, son père informe par lettre le lycée qu'il en retire son fils, parce qu'il lui a trouvé un travail. 40 ans plus tard, rédigeant son autobiographie, le fils n'a pas surmonté ni pardonné. Le voilà magasinier, payé 3,10 livres par semaine, dont 2 livres donnés en retour à la mère. Il a 17 ans et à la maison partage encore un lit avec ses 2 frères. Le service militaire est obligatoire pour 2 ans. Important ce détail puisqu'il cessera de l'être en 1960 et Jagger et Richards, nés en 1943, y échapperont. Et c'est ainsi qu'en 1955, il se retrouve un des 4000 soldats de l'escadron de chasseurs du camp anglais d'Oldenburg, entre Hambourg et la Hollande. En chambrée de 4, la première décision c'est de se cotiser puisqu'on va vivre ensemble pour un poste de radio. Et c'est ainsi qu'arrive à Bill Wyman le premier son de guitare électrique un matin à 5h, parce que les Américains ont pour leurs soldats un réseau de radio et que la nuit ou très tôt le matin, on y entend percer ce qui est encore, aux heures de grande écoute, refoulée, la musique blanche prise à l'héritage noir, le rock d'Elvis Presley. C'est pour jouer cette musique-là aux soldats d'Amérique, 5 heures par nuit, 6 jours sur 7, que les 4 de Liverpool viendront bientôt tout près d'ici, à Hambourg, jouer Heartbreak Hotel, Hound Dog, Mystery Train ou Love Me Tender, avec la même vénération fière et le sentiment d'aventure neuve qu'on a ces mois-ci au lancement des premiers Spoutnik. Quand Elvis Presley vient chanter pour les soldats américains en Allemagne, c'est la radio qui a déjà propulsé sa légende. Et William Perks, avec ses copains, a payé son ticket pour venir l'entendre. Ainsi se greffent dans la tête les légendes. Retour à Londres, dans son quartier d'enfance, au sud de la Tamise, à Penge, près du Crystal Park où on danse et on s'amuse, comme les pigeons du grand-père, boxeur amateur, comme le lévrier du père. Pour s'illustrer et passer la tête hors du lot, Bill s'illustre dans les concours de danse du samedi soir, et quelques mois plus tard, épouse sa cavalière. Le logement où s'est installé le jeune couple, maintenant qu'ils ont un bébé, n'a ni eau chaude ni commodité. Fini les concours de danse. Alors c'est la passion de la guitare à nouveau qui le brûle. Des guitaristes capables de jouer du Presley, les pourtours de Londres en produisent 10 par quartier. À Noël 1960, Bill est chez Art Nash, son magasin de Penge, et pour 23 livres, il achète à crédit son premier amplificateur. Avec les Squires, puis les Cliftons, on aura assez de succès pour délaisser les mariages et se lancer bientôt dans les circuits des clubs de jeunes. Puis peu à peu, en camionnette, 2 ou 3 fois par semaine, dans l'Essex et le Kent, on accède à l'univers des balles. Presque le bord de la vie professionnelle, quand William Perks, qui n'est toujours pas Bill Wyman, découvre d'un seul coup, ce début 1960, à un concert, dit-il, de Neil Christian and the Crusaders, ce qu'est la pulsation d'une guitare basse. C'est la révélation, ce sera cela son instrument. Mais c'est encore presque impossible à trouver, et très cher. Bill revend la totalité de son matériel, et Hart Nash lui propose à la place une basse, mais hors service. Avec un copain bricoleur en menuiserie, ils ont redessiné sur le monstre le profil des Fenders. Il la redécoupe selon la ligne de craie bleue, à la scie sauteuse. Il s'est déjà arrangé pour récupérer deux micros Framus, on les visse, on refait les câbles. De retour chez lui, il monte un amplificateur assez puissant pour faire vibrer une gigantesque membrane de haut-parleurs qu'il leste de ciment dans son bâti de bois peint en noir avec bordure dorée.
Which was about the size of a door.
Quasi de la taille d'une porte. C'est ainsi que William Perks devient bassiste. Well, I gotta get with a record machine. When it comes to rockin', she's a queen. We love to dance on a Saturday night. All alone where I can hold her tight. But she lives on the 20th floor of town. The elevator's broken down. So I walk one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, oh. Until I'm starting to sad. Avec son collègue batteur des Cliftons, Tony Chapman, il accompagne un pianiste de pub, puis Richie Valens, chanteur de variété, pour 2 livres par soirée. De quoi attraper
a good grasp of a lot of styles. Une bonne maîtrise d'un bon paquet de styles.
Et faire patienter Hart Nash. Chapman, qui lit Melody Maker, vient de répondre à une annonce où des débutants cherchaient un batteur. Un soir, il propose à son copain de l'y accompagner. William Perks a la touche rock'n'roll. Les musiciens maigres et très jeunes auxquels Tony Chapman le présente ce soir-là dans une arrière-salle de pub cultivent le rhythm and blues et haïssent la variété. La rencontre est froide. Perks ne dit pas un mot. C'est beatniks, cela ne lui dit rien, et c'est réciproque. On passe derrière, et Perks retourne à la voiture de Chapman pour déballer ce haut-parleur, dont la membrane est lestée de ciment, puis son amplificateur Vox AC30. Il remarque que les deux maigrelets se partagent un seul ampli avec 2 haut-parleurs d'à peine 30 cm de diamètre, et que le plus sombre des deux, s'il a une semi-core électrique Hofner, louche sur le Vox. Ce sera sa première parole au type au fringues sale, en bon anglais brut de Penge.
One of you can put your guitar through that. S'il y en a un qui veut brancher sa gratte là-dedans.
Il s'embarque dans les accords simples des blues de Jimmy Reed. Musique qui n'a pas d'intérêt pour William. Musique qu'il trouve facile. Il a des années de bal derrière lui qui le séparent de ses essais d'amateur. Et leurs mimiques, grimaces ne sont pas de son monde, comme sa mèche Presley n'est pas du leur. Ils ne tiendraient pas 5 minutes, les maigrelets, derrière Richie Valens, le chanteur de variété. On arrête, et c'est lui, Bill, futur Wyman, qui paye la tournée de bière, parce que les maigrelets n'ont pas d'argent, et ça se voit. Lui, il a des dettes et un gosse, mais ça fait rien. On est capable de payer une tournée de bière à des types quand on est de Penge. On fume une cigarette, c'est encore lui qui offre, soirée mal partie, mal foutue. Il fait froid. C'est un vendredi, le 7 décembre 1962, Londres est sous la neige. Le bassiste a 26 ans, les autres, à peine 19. Plus d'un tiers de vie en différence. C'est un loupé, un soir pour rien. Perks dit que ces musiques à 12 mesures, on peut pas jouer ça toute la nuit, c'est quand même un peu boring. Bien plus que monotone, boring. Appliqué à la musique, tout simplement. Emmerdant. Les Maigrelets ne répondent pas. Normal qu'à leur rhythm and blues puriste, un bassiste de variété de l'arrière-ville, Amesh Presley, ne comprenne rien. Au moins, ce soir, aura-t-on joué sur un vrai ampli. Quand on lui demande ce qu'il aime, qu'il parle de Chuck Berry, on repart dans l'arrière-salle. Ce type de penge, avec sa panoplie de matériel extraordinaire, qui dit monotone le blues en 12 mesures, s'il prétend jouer du Chuck Berry, il va falloir qu'il montre. Seulement, le petit mec de penge, avec sa grosse basse, ça ne l'effraie pas, Chuck. C'est pour de vrai qu'il sait jouer, qu'il a même de l'avance sur les Maigrelets.
Puts up quite a few volts going through there. He had the bass together already. He'd been playing in rock bands for 3 or 4 years. He's older than us. He knows how to play. But he doesn't want to play with these shitty rock bands anymore because they're all terrible. They're all doing that Shadows trip, all those instrumental numbers. Duane Eddy, Rebel Trousers. Wow!
Ça nous affiche quelques vols de plus de jouer là-dedans. Il avait pigé ce que c'est la basse déjà. Il a joué dans ses groupes de rock depuis 3 ou 4 ans. Il est plus âgé que nous. Et il sait ce que c'est que jouer. Mais il veut plus jouer avec ses groupes rock de merde. Parce que tous, ils sont terribles. Tous à se coller à la mode Shadows, ces trucs instrumentaux, Duane Eddy, Rebel Trousers.
Ce soir-là, Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards et Ian Stewart entendent pour la première fois quelque chose d'eux-mêmes qu'ils ne savaient pas. Mais Tony Chapman, l'ancien batteur des Cliftons, et qui deviendra représentant de commerce, ne convient pas à Brian. Il tape, paraît-il, décidément trop faux. Brian informe sèchement Chapman qu'on ne veut plus le revoir, et il remballe, vexé, ses tambours et ses cymbales dans la voiture.
« Well, that's it, Bill. We can form a new group of our own now. Ou bien, come on, Bill, let's go and start a new band. » C'est comme ça, Bill. Il faut qu'on fasse un groupe juste nous maintenant. Ou, viens, Bill, on se tire. Et on lance un groupe juste nous.
Sans doute que ce qui fut exactement prononcé ne compte pas dans ce détail, puisque deux versions de la même phrase sont rapportées par Bill Wyman à deux époques différentes. Mais Bill refuse et dit qu'il reste. Et à cela, rien ne préparait. Ni du côté des Maigrelets, ni du sien propre. I stay. Il rentre très tard à Penge ce soir-là. L'enfant dort. Et à sa mère, qui remportait avec lui les concours de danse du samedi soir, il en dira quoi ? Des Maigrelets qui jouent sans cachet de l'autre côté de Londres et à qui en plus il faut payer la bière. La qualité des perks, c'est de croire aux lévriers et aux pigeons voyageurs et de s'y obstiner. Les Rolling Stones, comme ils s'appellent encore, loin de Penge, seront l'accordéon, le lévrier, les pigeons, l'excentrisme particulier du petit-fils. Mais cette fois, ça marchera. Les Rolling Stones racontaient comme votre vie même, un feuilleton de François Bon, texte dit par Judith Allison et François Bon, équipe de réalisation, Jean-François Néolier, Patrice Lecomte, Olivier de Canis et Jacques Taroni.